Dans les pas des géantes. Elles ont marqué l'histoire des sciences, parfois sans qu'on le sache, souvent sans que l'on s'en souvienne. Dans les pas des géantes dresse chaque quatrième mardi du mois sur Radio B le portrait de ces femmes de science remarquables et pourtant méconnues. Laissez-vous inspirer avec Altec, le centre de culture scientifique de l'Ain. Bonjour à tous, je suis Camille de l'association Altec et je suis très heureuse de vous retrouver sur Radio B pour cette nouvelle année. Alors dans les pas des géantes, c'est notre chronique dédiée aux femmes oubliées de la science, car oui, encore aujourd'hui, les femmes sont largement sous-représentées dans les domaines scientifiques. Et il en est de même dans l'histoire des sciences, où finalement peu de figures féminines, mis à part Marie Curie, sont passées à la postérité. Bonjour Jean-Philippe.
Bonjour Camille.
Alors vous êtes médiateur scientifique à Altec et aujourd'hui on revient sur un phénomène qui contribue largement à ce manque de représentation. Il s'agit de l'effet Matilda. Concrètement, c'est quoi ?
Alors l'effet Matilda, on va dire que c'est la minimisation, voire complètement le déni de la contribution des femmes à la recherche scientifique dont les travaux ont souvent été attribués à leurs collègues masculins. Donc ce concept, il a été théorisé par Margaret Rossiter, qui était une historienne des sciences dans les années 80.
Cet effet Matilda, en fait, c'est une extension d'un autre concept de la sociologie des sciences qui a été développé par Robert King Merton et qu'on appelle l'effet Mathieu.
Oui, alors, deux mots sur l'effet Mathieu, c'est lorsqu'en fait la renommée d'un scientifique ou de l'établissement où il travaille va déterminer, on va dire, l'importance que l'on accorde à ses travaux et de fait, des crédits dont il va disposer.
Ce qui veut dire aussi qu'on va attribuer généralement une découverte au scientifique le plus renommé dans une équipe de chercheurs. Et par exemple, dans le cas d'un prix Nobel, le lauréat sera surtout le grand nom de l'équipe, quelles que soient finalement ses productions précédentes.
Oui, c'est exactement ça. Alors ce phénomène, il a des effets négatifs, car il va faire de l'ombre aux autres scientifiques et peut entraîner malheureusement l'oubli de chercheurs moins renommés, mais tout aussi talentueux. Robert Merton, il voyait aussi pour un côté positif à cet effet Mathieu, c'est que de fait, il peut permettre à de jeunes chercheurs, en s'associant à un grand nombre, de monter un petit peu en notoriété.
Alors, pour revenir sur cet effet Matilda, dans les années 80, Margaret Rossiter, donc l'historienne des sciences, elle va approfondir cette théorie de l'effet Mathieu en s'intéressant particulièrement à la place des femmes dans la mémoire scientifique. Donc, elle va essayer de comprendre d'où venait cette sous-représentation des femmes dans les sciences et elle va pour cela mettre complètement de côté l'idée un petit peu simpliste selon laquelle ce serait uniquement à cause du faible niveau d'éducation des filles dans la population, qui aurait empêché l'émergence de grandes scientifiques. En fouillant un peu dans cette histoire des sciences, elle va finalement se rendre compte qu'il y a des travaux de femmes scientifiques plus nombreux que ce que l'on croit, avec certains qui remontent même au Moyen-Âge.
Oui, alors hop, on se retrouve hop, au Moyen-Âge, et là on retrouve Trotula de Salerne, on va dire, c'est une pionnière de la gynécologie, et elle est restée totalement méconnue, car ses travaux ont souvent été attribués à des hommes. Alors, au fur et à mesure que Margaret Rossiter découvre ses travaux réalisés par des femmes scientifiques, elle se rend compte qu'elles sont en grande majorité oubliées de l'histoire des sciences. C'est à ce moment qu'elle remarque que l'effet Mathieu, il est décuplé lorsqu'il s'agit de considérer l'apport des femmes aux sciences.
Ouais, elle propose alors la théorie d'un effet Matilda, en hommage à la militante féministe Matilda Jocelyn Gage, qui dès la fin du 19e siècle avait remarqué qu'une minorité d'hommes avait tendance à s'accaparer finalement la pensée intellectuelle des femmes.
Oui, d'ailleurs, on peut noter une petite ironie de l'histoire par rapport à l'effet Mathieu, c'est qu'on retient surtout le nom du sociologue Robert King Merton pour la paternité de ce phénomène sociologique, mais en réalité, il l'a théorisé avec son épouse Harriet Zuckerman, elle aussi sociologue des sciences, mais dont la postérité n'a pas retenu le nom.
Ouais. L'ironie de l'effet Matilda, en effet, qui favorise du coup cette invisibilisation des femmes dans l'histoire. Jean-Philippe, justement, quels sont les mécanismes qui provoquent cette mise dans l'ombre des femmes scientifiques ?
Alors, ces mécanismes, comme bien souvent, ils sont multiples. Alors, ça va de faire passer la femme au second plan en minimisant son action. C'est la faire disparaître complètement de l'histoire. C'est aussi diminuer ou voler son travail. C'est la cantonner au rôle de femme, de ou de sœur, de, etc. Et puis, c'est même de l'auto-invisibilisation pratiquée par les femmes elles-mêmes pour différentes raisons sociologiques, d'éducation, etc.
Ouais, c'est le fameux syndrome de l'imposteur, etc. Tous ces phénomènes qui sont en cours.
Radio B, les bonnes ondes.
Alors, on vient de voir ensemble en quoi consistait l'effet Matilda et quels sont notamment les mécanismes qui entraînent cette invisibilisation des femmes dans l'histoire des sciences. J'aimerais qu'on revienne maintenant sur quelques exemples, à commencer par un qui m'a beaucoup marqué, celui de l'astrophysicienne Jocelyn Bell, qui a tout simplement été écartée du prix Nobel récompensant sa découverte.
Oui, alors, Jocelyn Bell, c'est qui ? C'est en fait c'est une astrophysicienne britannique. Alors, au milieu des années 60, alors qu'elle est étudiante, elle participe à la construction d'un radiotélescope qui étudie les quasars, donc c'est des noyaux de galaxies extrêmement lumineux, on va dire que ce sont les entités les plus lumineuses de l'univers. Alors, Jocelyn Bell est chargée d'analyser les données récoltées par le radiotélescope. Alors, pour vous donner une petite idée, il faut s'imaginer qu'à l'époque, c'est tout sur papier, ça représente plus de 30 mètres de papier que la jeune doctorante, elle doit analyser tous les jours, à la main, pour repérer le signal des quasars. Alors, elle accomplit ce travail de manière assez fastidieuse et s'habitue petit à petit à éliminer toutes les interférences humaines et les bugs, voilà, toutes les ondes radio, etc., qui peuvent interférer. Mais parmi les données, elle repère un signal qui se répète occasionnellement dans une portion précise du ciel, sans qu'elle puisse vraiment l'expliquer. Et cette anomalie, alors pour vous donner une idée, elle s'occupe que 5 mm sur les 30 mètres de papier. Sur l'ensemble de son analyse. Donc, elle en parle à son directeur de thèse, Anthony Hewish, qui estime dans un premier temps qu'il s'agit juste d'une interférence humaine, donc il ne faut pas en tenir compte. Et contre son avis, elle continue ses recherches, elle découvre que les pulsars, des petites étoiles d'un rayon d'une dizaine de kilomètres seulement. Et finalement, les travaux de Jocelyn Bell sont publiés sous le nom de son directeur de thèse, Anthony Hewish. Le nom de Jocelyn Bell, il arrive en deuxième position dans la liste des signataires. Donc, c'est typiquement l'effet Mathieu.
Elle découvre donc une toute nouvelle catégorie d'étoiles. Anthony Hewish y remportera le prix Nobel de physique en 1974 pour la découverte justement des pulsars. Par contre, Jocelyn Bell, elle n'est pas associée à ce prix.
Alors effectivement, elle a été oubliée comme découvreuse et puis le comité Nobel l'a complètement oubliée. Donc il faut se rappeler qu'à l'époque, il y a une partie de la communauté scientifique qui s'est élevée contre cette décision. Elle a été scandalisée de voir ce prix prestigieux remis à un directeur de thèse au lieu d'être remis véritablement à la personne qui a fait la découverte, au motif qu'elle était simplement étudiante ou parce que c'était une femme.
Et puis les exemples sont nombreux d'autres femmes qui ont été privées de reconnaissance au profit souvent de leur directeur de thèse, on vient le voir, ou même d'un collègue de laboratoire. On peut citer par exemple Rosalind Franklin qui a participé grandement à la découverte de la structure en double hélice de l'ADN.
Oui, il y a aussi Nettie Stevens qui est pour la découverte des chromosomes X et Y.
Alice Ball aussi, scientifique afro-américaine qui a élaboré un traitement efficace contre la lèpre avant de mourir malheureusement à l'âge de 24 ans.
Oui, dans des femmes aussi oubliées, il y a Lise Meitner qui a contribué à la première fission nucléaire d'un noyau d'uranium.
Et qui a elle aussi été privée du Nobel. Et en France, on a aussi l'exemple de Marthe Gauthier qui a joué un rôle majeur dans la découverte du chromosome surnuméraire qui est responsable de la trisomie 21. Voilà, donc la liste est longue. Et puis Jean-Philippe, il y a aussi le statut particulier, vous en parliez avant, des femmes de, trois petits points, ces femmes scientifiques qui ont travaillé avec leurs époux mais dont la contribution a été largement passée sous silence.
Oui, alors un exemple frappant, c'est le cas de Mileva Einstein. Alors c'est qui ? C'est l'épouse d'Albert Einstein, qui est elle-même physicienne. Alors, grâce à la nombreuse correspondance qui se sont échangées, on sait aujourd'hui que Mileva Einstein a joué un rôle important dans la mise en place de la théorie de la relativité. Alors, ça n'enlève rien au génie d'Albert Einstein, évidemment, mais c'est un exemple parmi d'autres de la participation cachée des femmes au travail scientifique, en particulier lorsqu'elles sont l'épouse d'un célèbre scientifique.
Alors cet effet Matilda, on vient de voir qu'il se rencontre en particulier dans le domaine scientifique. D'ailleurs, il a été théorisé à partir de l'histoire des sciences. Est-ce qu'il est présent aussi dans d'autres domaines ?
Et oui, c'est pas qu'un phénomène lié aux femmes scientifiques, mais en musique, par exemple, on connaît tous Mozart. Mais peu de gens qui savent qu'il avait une sœur, Maria Anna Mozart, elle-même compositrice. Et elle a été contrainte après par sa famille et les usages de l'époque d'arrêter sa carrière musicienne et de compositrice au moment où elle est entrée en âge de se marier.
Et puis il y a sûrement encore d'autres domaines dans lesquels le rôle des femmes a été minimisé, hein. Ça peut être la politique, le sport, etc. Ce rôle a même parfois été carrément passé sous silence. Heureusement, Jean-Philippe, les exemples cités appartiennent au passé, on espère, et on peut dire que cet effet Matilda, il tend quand même à se raréfier.
Oui, heureusement, au fur et à mesure que la société évolue plus largement, en particulier sur les questions d'égalité homme-femme, les femmes sont de moins en moins invisibilisées au sein des travaux scientifiques. Alors, le nombre de femmes ayant obtenu un prix Nobel, par exemple, est en augmentation au fil des années, même si cela reste encore très peu par rapport aux hommes.
On a l'exemple, par exemple, de l'année 2020.
Tout à fait. En 2020, on va dire sur 10 lauréats du prix Nobel, 4 étaient des femmes. Avec notamment la française Emmanuelle Charpentier et l'américaine Jennifer Doudna qui ont reçu le prix Nobel de chimie pour leur technologie de ciseaux moléculaires.
Alors des perspectives encourageantes en effet, hein, c'est le signe que les choses bougent, alors doucement certes et parfois trop doucement même. Mais qui, on l'espère, rassurera du coup les femmes, en particulier les jeunes filles qui nous écoutent peut-être et qui souhaitent s'engager dans les sciences. Parce que la recherche scientifique, elle a besoin de cette diversité, elle a besoin d'idées nouvelles, de casser les codes et surtout de dépasser les préjugés. En tout cas, ces quelques exemples ils nous montrent qu'il existe plus de femmes scientifiques remarquables que ce que l'histoire collective aura retenu. Et Jean-Philippe, le meilleur moyen pour encourager les jeunes filles qui souhaitent mener une carrière scientifique, c'est de faire connaître tous ces portraits de femmes. Vous avez d'ailleurs quelques livres à nous recommander.
J'ai sélectionné L'effet Matilda d'Ellie Irving. C'est un roman jeunesse qui suit le parcours d'une jeune scientifique en herbe qui va se battre pour rendre la reconnaissance à laquelle sa grand-mère scientifique n'a pas eu droit. Et plus largement, sur les femmes invisibles de l'histoire, on a les Culotté de Pénélope Bagieu. Donc c'est une bande dessinée qui représente les portraits de femmes remarquables qui ont marqué l'histoire sans que l'on s'en souvienne, aussi bien dans le domaine des sciences que du sport, de la politique, etc.
Merci Jean-Philippe pour nous avoir éclairé sur l'effet Matilda et pour cette sélection d'ouvrages. Nous vous remettrons les références sous le podcast dès cette émission sur le site de Radio B. À bientôt Jean-Philippe.
À bientôt Camille.
Et quant à nous, rendez-vous le mois prochain pour un nouvel épisode dans les pas des géantes. D'ici là, ne manquez pas nos animations scientifiques à découvrir sur notre site internet altechscience.fr. Retrouvez d'autres portraits de femmes scientifiques inspirantes et toutes les autres chroniques d'Altech sur le site radio-b.fr. À bientôt.